infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait taille à lutter.
Un peu de zat.
On veut pas que le ciel descende, des cendres de mort et de fer.
Un peu de grève.
Pilote sans qu'on crève, de faim, de froid, de tout. Autour faire la grève.
Du gaz de schiste.
Exploitation de gisement de gaz de schiste.
Du logement. Du féminisme. Bon bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a le droit de se marquer d'un sport en guerre. On aura pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent en grève,
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Canu 102.2 et c'est l'heure du Canu Info. Et cette semaine, on va commencer par une rubrique internationale. Et si à la fin de la lecture de ce fil, notre invité est là, on commencera par vous parler des nouvelles de l'insurrection d'octobre, donc en Irak.
Ensuite, on parlera des agressions de réfugiés en Grèce et de la politique inhumaine de l'Union européenne.
Et puis on reviendra au local où on vous parlera de ce qui se passe à l'ECG, l'espace communal de la Guillotière, où de nouvelles aventures sont arrivées.
On continuera par une rubrique féminisme où on parlera, on rappellera que non, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises victimes de féminicide, et on vous passera aussi un appel pour le 8 mars.
Ensuite, il y a un appel à deux Technopolis. Donc, c'est sur. Alors, attends, j'ai pas le. C'est quoi déjà, tu disais, c'est sur le truc.
En fait, c'est Technopolis. Du coup, c'est un site qui travaille sur les technologies policières.
Ouais,
et du coup, ils appellent à dénoncer votre patron.
C'est ce que j'avais parlé. Ouais, à dénoncer son patron.
C'est très mal écrit ce film.
Ensuite, au niveau du nucléaire, on aura. Deux petites infos concernant le retour vers le futur, une fontaine au radium et des nouvelles de la centrale du Bugey, au bord de l'accident.
Voilà, si on a le temps, on ajoutera plein de trucs super. Si on n'a pas le temps, on vous donnera quand même 2-3 nouvelles de l'agenda parce qu'il va se passer plein de trucs dans le week-end. Et puis derrière, évidemment, vous pouvez nous appeler si vous savez ce que veut dire ACAB au 04 78 39 18 15.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internationale.
Et oui, rubrique internationale pour commencer ce Canu Info avec un direct tout de suite, puisque Amer vient de s'installer dans le studio pour nous parler d'Irak. Il n'y a pas le temps de souffler.
Oui, il vient d'arriver sur un tapis.
Il a fait le temps du fil pour qu'il arrive.
On s'était eu au téléphone la semaine dernière, Amer, où tu nous avais donné un petit peu des nouvelles de la révolution, de l'intifada d'octobre.
Oui.
En Irak.
Effectivement, en fait, au niveau violence au niveau événement, ça peut que accélérer au niveau de silence. Et je me permets de réutiliser un terme que toi-même qui avais rédigé et depuis que je continue à l'utiliser, que c'est vraiment un silence assourdissant. Et là, c'est, j'ai l'impression qu'on ferme de plus en plus les robinets autour de ce sujet, tout en oubliant autre chose. De toute façon, on ne va pas rediscuter sur l'orientation des médias, sinon toute l'idée de Radio Canus ne sera pas là, de toute façon. Par contre, en dehors de la violence, il y a, je vous avais parlé la dernière fois, de l'arrivée d'une nouvelle arme à utiliser. En fait, il devient très créatif, les assassins, les forces de la police, les milices, donc en utilisant les carabines à plomb. Donc, du coup, là, il y a 8 cas déclarés d'aveuglement à cause de ces carabines, tirs de carabines, en dehors des gens qui ont le dos abîmé ou qui ont les épaules touchées ou qui ont les fesses complètement grignotées. C'est affreux. Mais les kidnappings se multiplient à tout va et il y a maintenant des témoignages. Et de plus en plus de témoignages. Il y a deux lignes conductrices qui se répètent dans les témoignages des gens qui osent, bien sûr, qui prennent la parole. Tout le monde n'ose pas du tout prendre la parole. Vous pouvez imaginer toute la violence de chantage et de pression que peuvent utiliser. Donc les deux, c'est d'où vient votre argent ? Qui vous finance. Et donc ces gens, ils continuent à être persuadés que c'est quelqu'un qui finance quelqu'un, en fait. Voilà.
Tu veux dire que c'est les personnes extérieures sont persuadées que les manifestants sont financés ?
C'est les réponses qui se répètent. Oui. Alors, deux possibilités. Ou c'est des gens qui ont le cerveau lavé, qu'on leur dit ce sont des gens manifestement financés par l'Iran, par les États-Unis, par Israël, par je ne sais pas quoi, qui, l'Arabie Saoudite ou tout le monde, de toute façon. Et de toute façon, je vais dire le deuxième aspect qui se répète, qui est très manifeste, qui est on demande pourquoi vous insultez Al-Sadr. Muqtada al-Sadr, parce que, en fait, comme j'avais mentionné la dernière fois, maintenant, les manifestants le nomment par nom. Ils sont contre lui. Donc, du coup, ça indique que dès le départ et depuis 5 mois, c'est ce que nous avons pensé, douté, analysé. On a eu reçu des témoignages plus ou moins clairs que tout le monde participe à cette violence, à ce kidnapping, à ces assassinats, que les partis politiques, religieux, les milices, et c'est des pouvoirs très gigognes avec les milices et avec le Coran al-Sadr, qui est le Coran majoritaire dans le Parlement. Et donc, les témoignages disent que ce sont des gens, des agents de la sécurité de l'État, en fait. Et cependant, ils posent cette deuxième question. Pourquoi vous insultez al-Sadr ? Parce que de toute façon, ils se considèrent aujourd'hui l'État. Donc, un peu Louis XIV, mais je ne sais pas, on doit le mettre Louis combien ? 76 ou je ne sais pas quoi, 2020. Voilà, donc, mais et dans ses dires à lui, et comme dans les dires de Khamenei ou en Iran, c'est toujours un complot américain financé par les Américains.
Ouais, pour rappeler ce que tu nous expliquais les dernières fois, c'est que Muqtada al-Sadr, c'est une sorte de leader populiste qui a aussi une grosse milice, un gros pouvoir financier. Et qui, au début, avait vachement soutenu le mouvement, avait été dans le mouvement en tout cas, et qui s'en est retiré, et là, s'est retourné contre le mouvement, mais même avec des attaques armées contre des parties du mouvement.
Alors, je suis obligé de retourner un peu en arrière. En fait, au départ, il était non seulement contre le mouvement, il avait fait des déclarations en interdisant ses disciples et ses forces, sous courant politique, de participer. C'est après la première semaine qu'il a commencé à participer en disant que nous faisons partie de cette révolution. Il a fait une interview pour que je déclare, c'est pas moi qui dit, c'est lui qui dit, c'est pas de l'analyse. Il a fait un interview important suite à son retour de l'Iran et à son attaque contre les jeunes, et en particulier les filles, les femmes et les étudiantes et les étudiants irakiens dans la rue. Et il a dit texto que si c'était la révolution, si cette révolution nous appartenait, on l'aura retiré et écrasé depuis très longtemps. Mais comme c'est pas nous, on est obligé de tirer les oreilles. Et je vous ai apporté les témoignages de cette maman. Elle a dit, s'adressant à lui, vous voulez vous tirer l'oreille de quelqu'un, mais vous avez fini par tuer mon fils. Qui, tout ce qu'il a demandé, c'est de travail et de la liberté pour son pays. Et donc oui, c'est bien lui, et là, il accentue la violence contre les gens par ses milices, en dessous, tout en se déclarant, c'est pas lui, en fait. Il y a la troisième, soi-disant la troisième force, qu'on n'a jamais su que c'est qui, c'est la troisième force. Après, il y avait l'épisode que nous avons aussi mentionné du Premier ministre, bien sûr.
Et là, parce que moi, si j'ai bien compris, il y a le Premier ministre qui devait présenter un gouvernement la semaine dernière. Donc le Premier ministre, c'est Alaoui, et qui a démissionné, qui a jeté l'éponge.
Tout à fait. En fait, je me permets de rappeler aussi, c'est Alaoui, c'était plus ou moins un candidat de Coran Sartre au poussé. Je dois même pas dire plus ou moins, parce que c'est un parent à lui. C'est lui qui a le Coran le plus important au Parlement, qui a une coalition aussi. Et on attendait toujours la déclaration du ministère que j'avais mentionné la dernière fois où vous m'avez appelé, qu'il n'arrivait pas à avoir ce qu'on appelle le vote de confiance au Parlement. Et donc, du coup, à chaque fois, c'était reporté. Donc, si je veux... Je vais un peu aller dans l'analyse de la situation actuelle. Donc au Parlement, comme c'est le parti politique religieux, et il y a un seul petit courant qui est non religieux. Il prétend laïque, mais c'est très corrompu aussi. Après, il y a les partis kurdes qui prétendent laïque, mais en fait, en même temps, la famille Barzani, c'est une famille religieuse et patriarcale. Donc, en tout cas, donc, il y a deux courants. Le courant pro-Alaoui, qui est Al-Sadr, et aussi le clergé. Et les Américains, ils avaient donné leur accord. Et les Iraniens aussi. Et donc on va les appeler la coalition ethno-confessionnelle technocrate, parce que lui il prétendait qu'il voulait présenter des technocrates en dehors de ça. Il y a en face, il y a d'autres groupes chiites politiques, et ils sont mis en coalition avec les partis kurdes, avec les partis sunnites, qui se sont déclarés pour une reprise complète de, on va dire, la coalition ethno-confessionnelle communautaire, tout simplement. Finalement, dans tous les cas, ils sont entendus contre les gens, contre les manifestants, contre la liberté et pour la corruption et pour s'accrocher au pouvoir.
Et j'ai entendu dans les médias que les manifestants proposaient un Premier ministre qui viendrait du peuple et des manifestants en Assyrie. J'ai bien compris ça, t'en as entendu parler.
Il y a beaucoup de propositions. Oui, effectivement, il y a beaucoup de propositions dans ce sens pour dire qu'il ne sera ni kurde, ni chiite, ni sunnite. Après, le Coran présenté assyrien, c'est un Coran qui, lui, il se nomme comme Coran démocratique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est vrai ou c'est pas vrai. De toute façon, ça peut être une bonne idée, si, à condition que ça amène vers une vraie annulation de la Constitution, un revote, une assemblée constituante pour une nouvelle Constitution. Or, tous les groupes politiques, bien sûr, défendus par les Iraniens et les Américains, partiellement aussi parce que les Américains, c'est pas un seul Coran non plus, ils sont contre, ils soutiennent le régime, ils veulent maintenir les régimes, donc le régime actuel. Il y a l'organisation, l'état organisationnel inter-manifestant, inter-force de la révolution, commence à évoluer un peu en comité du comité, en coalition du comité. Il y en avait même de groupements de tentes, de coalitions de tentes. On parle des pavillons de la révolution, bien sûr. Et pour Il y a deux ou trois noms, un nom de Nasseria, un nom de Bagdad et un nom de Divania qui se nomment. Mais en face, tous les autres, les deux coalitions politiques, ils refusent.
Ils font barrage à ça.
Bien sûr, ils font barrage. Voilà.
Et tu sais, quelles sont les grandes dates ou les événements à venir un petit peu du mouvement irakien?
Là, ce dimanche, après-demain, il y a un appel pour de nouveau des descentes par million pour abattre toutes les propositions de deux coalitions, pour mettre la pression contre le gouvernement, même contre les clergés. Indirectement, ils ne peuvent pas déclarer qu'ils sont contre les clergés. Et parce qu'ils commencent à véhiculer des noms qui viennent de l'autre coalition, qui est la coalition... on est dit ethno-confessionnel, voilà, communautaire. Et ce sont des gens, au-delà de leur appartenance douteuse, ils ont des liens avec le sionisme, ils ont des liens avec les Américains. Et c'est des anciens d'un personnage que nous n'avons pas mentionné, qui est décédé, qui s'appelait Ahmed Al-Chalabi. C'était l'une des références par les Américains et les Anglais pour l'entrée en Irak en 2003.
Oui.
C'est l'un de ses lieutenants. Il vient d'être nommé par derrière pour dire ça peut être un bon premier ministre. Voilà.
Du coup, là, c'est dimanche qu'il y aura des manifestations massives sûrement en Irak.
Oui, donc il y a cette attente, mais il y a des attaques extrêmement violentes. Donc, voilà. Moi, j'ai l'impression, donc moi j'ai beaucoup peur pour les camarades et les amis, mais j'ai l'impression que les jeunes, ils ne veulent pas céder. Par contre, la pression, elle est extrêmement violente. Vraiment, la violence, à chaque fois, ça dépasse des limites de l'imaginaire. Là, l'autre jour, j'ai lu un reportage de Gardien. Alors, il ne faut pas parler de médias français, avec tout le respect que je vous dois, parce que c'est honteux. Même le monde politique et tout ça, c'est inexistant. Le Gardien, ils ont publié un reportage. Je ne dis pas que c'est vrai, mais on parle de 1000 personnes assassinées. Là, on est autour de 30 000 victimes blessées. Donc, c'est énorme. Donc, voilà.
Ok. Bon, merci en tout cas pour ces nouvelles.
Merci à votre invitation et j'aimerais juste mentionner que j'avais bien mentionné et rapporté vos salutations par les Irakiens.
Cool.
Et ils sont toujours ravis que leur parole, même à travers ma voix décrochée, arrive jusqu'à un peu une partie de français.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Et sur ce son venu du soulèvement irakien, on reste dans la rubrique internationale et on va parler de ce qui se passe en Grèce et notamment de la politique inhumaine de l'Union européenne qui apparaît là crassement avec la crise avec la Turquie. Et on revient sur un article qui a été publié sur Révolution Permanente. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, il y avait des images plus que révoltantes qui sont parues de la frontière grecque où il y avait des scènes de violence de la part des gardes-côtes et des gardes-frontières grecques envers les réfugiés affluents vers la Turquie. Turquie, des scènes où on voyait des gardes-côtes qui poussaient des embarcations et qui tiraient juste à côté avec des tirs à balles réelles, des scènes où on voyait des gardes-frontières qui envoyaient des lacrymogènes directement sur des migrants. Et le bilan fait déjà état donc au moins un noyé et plusieurs blessés suite à ces actes. De part et d'autre de la frontière, ces images terribles ont donné lieu à une passe d'armes entre gouvernements se renvoyant les responsabilités des violences. Le jeu géopolitique qui se joue dans la guerre turco-syrienne et les tensions avec la Grèce mettent en lumière du coup la politique mortifère de l'Union européenne en matière d'immigration. Il y a vraiment une instrumentalisation de la question des migrants dans ce conflit qui rompt avec tout ce qu'on avait pu essayer, enfin tout ce qu'avait pu essayer de mettre en place l'Union européenne, de masquer un petit peu toute cette gestion migratoire. Comment ça se passait avant que tout ça soit révélé ? Eh bien, l'Union européenne, c'est le mythe de la libre circulation, c'est le mythe des droits de l'homme. C'est les droits de l'homme et la liberté, bien sûr, pour celles et ceux que l'on nomme citoyens de l'espace Schengen. Pour les autres, l'Europe, c'est une forteresse. Une forteresse qui est loin de s'être construite avec des matériaux des plus reluisants. C'est une forteresse qui s'est construite sur une externalisation de la prise en charge des migrants et des réfugiés. Une externalisation avec des pays aux frontières de cet espace Schengen. Externalisation qui s'est faite en fermant les yeux sur la question des droits humains. Externalisation qui s'est faite en faisant briller les yeux des pays frontaliers, des yeux qui brillent de contrats juteux et d'accords commerciaux ou militaires. Parmi ces pays, il y a la Syrie. Et aussi, depuis 2016, il y avait la Turquie. Bruxelles avait signé un accord avec la Turquie pour déléguer le contrôle des frontières et la gestion de l'afflux des réfugiés, poussé par les guerres au Moyen-Orient. C'est un accord qui valait 6 millions d'euros. Mais la Turquie, c'est pas qu'un sous-traitant de la politique migratoire, c'est aussi un état stratège. Et suite au revers turc en Syrie, Erdogan a annoncé vendredi dernier ouvrir les frontières avec l'Union européenne et encourager les migrants et réfugiés revenus de Turquie à s'y rendre. Son but, c'était de faire pression sur l'Union européenne pour obtenir un soutien financier de l'Union européenne dans le conflit contre la Syrie. Une nouvelle étape de ce qu'ils appellent la crise migratoire est donc née la semaine dernière, en rupture avec la rupture de l'accord d'Ankara. Face à cette rupture, l'Europe a volé au secours de la Grèce et annoncé 700 millions d'euros de soutien et le renfort de Frontex. Le but, bien sûr, poursuivre la politique répressive et la fermeture des frontières. Tout le monde semble d'accord pour cette gestion sécuritaire et tout le monde va venir soutenir la Grèce et en même temps, en Europe, on continue quand même à s'écharper sur qui va faire le sale boulot. Le sale boulot, il reste aux frontières quand même de l'Europe avec des pays qui font frontière, qui sont la Grèce et l'Italie, et qui figurent comme sas d'entrée de l'Union européenne, qui gèrent des hotspots, ce qu'on appelle des hotspots, des endroits où on entasse des migrants. Que les puissants s'écharpent à travers les gestions sécuritaires ou fêtent leurs alliances sur des vies humaines qu'ils dansent et qu'ils dansent actuellement. L'Europe forteresse dessine ainsi, dans la Méditerranée, ses frontières, mesurables par le nombre de vies perdues dans les traversées douloureuses de réfugiés à la recherche d'un avenir meilleur. Le durcissement de la politique répressive et de fermeture des frontières, la surenchère à la pression de la Turquie, est ainsi un pas de plus dans la politique anti-migrant de l'Union européenne. Et en Grèce, les derniers événements internationaux poussent à une surenchère réactionnaire. Par exemple, le Premier ministre Mitsotakis, qui est un chantre de la politique anti-migration, s'est illustré ces derniers temps. Il avait déjà multiplié depuis son élection des expulsions et surfé sur le terrain nationaliste, ce qui fait qu'en Grèce, il y a une surenchère nationaliste et une haine anti-migrants qui se développe de plus en plus. Il y a aussi le ministre du développement grec qui, lui, hésite plus à parler d'invasion concernant les migrants. Ils ont envoyé l'armée et les gardes frontières aux frontières pour empêcher les migrants de passer. Sur les îles où les réfugiés arrivent et où on les entasse, les conditions sont indignes. Les camps qui étaient prévus, on voit leur capacité d'accueil dépassée, créant des situations extrêmement tendues. Ces derniers jours, la situation devient incontrôlable sur les îles, et notamment, des gens ont reporté les exactions de bandes fascistes qui sèment les terreurs sur les îles de Lesbos et à Chios. Ils s'en prennent aux réfugiés, ainsi qu'aux travailleurs des organisations humanitaires. Et il y a un journal qui s'appelle Efsin qui a reporté qu'à Mytilène, en particulier, les attaques ont pris la forme d'un blocage de réseaux routiers et les bandes d'extrême droite contrôlent carrément la circulation avec la tolérance des autorités locales et de la police. Et la situation semble de plus en plus incontrôlable. La solution vers laquelle tend le gouvernement grec dans tout ce contexte ultranationaliste est en droite ligne avec ses politiques d'expulsion, c'est la constitution d'un méga camp fermé sur la Grèce continentale dont l'objectif serait l'expulsion de tous les réfugiés entrés sur le territoire illégalement depuis le 1er mars. Il y a aussi un décret qui est passé au journal officiel qui fait que toutes les personnes qui sont rentrées depuis le 1er mars ne peuvent plus faire de demande d'asile en Grèce. Ainsi, les migrants et réfugiés sont pris en otage des relations diplomatiques entre la Grèce, Chypre et la Turquie. Les face-à-face se multiplient aux frontières et chacun des gouvernements instrumentalise la question pour gagner le soutien de l'Union européenne. Une bataille des images et de communication s'est donc engagée. Les tirs de gaz lacrymogène dans les régions frontalières ainsi que des tirs à balles réelles ont fait au moins un blessé. Et ça, ça vient jouer en fait dans les négociations et dans les affrontements entre les pays qui se reprochent les uns les autres cette gestion. Dans un cynisme et dans un revirement assez incroyable, on a pu ainsi entendre Erdogan déclarer, donc là c'est Erdogan qui parle, il appelle en particulier la Grèce mais aussi les autres pays européens à faire face avec respect aux réfugiés qui sont venus dans leur territoire. Et Erdogan toujours ajoute, si les pays européens veulent régler le problème, alors il faudra appuyer les politiques et solutions humanitaires de la Turquie en Syrie. Ou comment, dans l'état actuel de la crise, c'est la Turquie qui fait des leçons de droits de l'homme à l'Europe. C'est donc pris au piège de ces tensions géopolitiques que les réfugiés se trouvent massés à la frontière gréco-turque, au péril de leur vie et au mépris de leur dignité.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est de la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a dit à les interjouer pendant la masse du rassemblement pour le premier arrivé qui est l'école de l'Opéra de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et pour commencer la rubrique locale, on a choisi de vous lire un communiqué de l'espace communal de la Guillotière suite au rendu de leur procès. Le 24 février dernier, l'huissier de justice est venu remettre un commandement de quitter les lieux aux habitants de l'espace communal de la Guillotière. 2 mois ont été accordés. 2 mois pour continuer à faire vivre cet espace et renforcer la solidarité sur le quartier.
Le 25 novembre dernier, un collectif de demandeurs d'asile et leur soutien ont réquisitionné un bâtiment-appartement appartenant à la famille Descours, au 45 rue Béchevelin. Cette réquisition a pour objet de mettre à l'abri les demandeurs d'asile laissés à la rue par les services de la métropole, de la préfecture et utiliser une partie du bâtiment pour organiser l'entraide et la solidarité sur le quartier de la Guillotière. Ainsi est né l'espace communal de la Guillotière.
Ce bâtiment, inoccupé depuis 2015, est l'objet d'un compromis de vente avec le promoteur UTE, qui, comme tout le monde le sait, a pour projet de démolir une grande partie de l'îlot Mazagran. C'était sans compter sur le collectif Habitons Mazagran et des habitants et habitantes du quartier qui, après plusieurs années de lutte, ont réussi à imposer un moratoire sur ce projet immobilier. Après un cycle de concertation mené par la mairie, vaste enfumage destiné à noyer le poisson et épuiser les opposants, l'avenir de l'îlot est plus fou que jamais, flou que jamais.
C'est dans ce contexte que la famille Descours, pour préserver ses intérêts et la vente de son bâtiment à 1 million d'euros environ, et alors que les habitants voulaient négocier, a lancé une procédure judiciaire pour l'expulsion immédiate des occupants sans solution de relogement.
Ce lundi 24 février, l'huissier de justice, mandaté par les fils Descours, est venu transmettre en main propre le compte-rendu de la décision de justice. Grâce au soutien et à la détermination des habitants, l'expulsion immédiate n'a pas été retenue. Les habitants et habitantes du 45 rue Béchevelin ont obtenu un délai de 2 mois à compter de cette date, une première victoire pour l'espace communal.
Malheureusement, c'était sans compter sur l'avidité des frères Descours. Alors que les habitants ont reçu l'ordre de quitter les lieux le 24 avril avec le risque de se retrouver à nouveau à la rue, les propriétaires qui s'apprêtent pourtant à encaisser un chèque d'un million d'euros si la vente de leur bâtiment est actée, se sont empressés de leur transmettre un ordre de paiement de plus de 950 euros correspondant à leurs frais de justice en les menaçant de saisir leurs biens en cas d'impayé. Loin des valeurs de solidarité et de charité portées par leur père, les frères Descours, refusant tout dialogue avec les occupants et les occupantes et de trouver une solution à l'amiable, frustrés par leur défaite lors du procès, viennent aujourd'hui jouer les charognards sur le dos des personnes vulnérables. Honte à eux.
Par ce communiqué, les habitants et collectifs de soutien à l'espace communal de la Guillotière souhaitent rappeler leurs revendications. Au vu du moratoire mis en place sur le projet immobilier L'îlot Mazagran, au vu du désir des habitants et habitantes de continuer à habiter en ces lieux et faire vivre les liens de solidarité avec le reste du quartier. Et au vu des nombreux soutiens qui sont manifestés ces trois derniers mois pour cette occupation, nous réaffirmons l'évidence qu'il n'y a aucune urgence à expulser ce bâtiment, qui dans tous les cas restera vide jusqu'à la signature du prochain plan local d'urbanisme et de l'habitat.
Dans ce contexte, les habitants et soutiens de l'espace communal de la Guillotière estiment que l'ouverture d'un dialogue avec les propriétaires ainsi que les élus d'arrondissement ou de la métropole est un préalable à toute intervention. Dans la situation actuelle, aucune garantie de relogement ne permet d'assurer aux habitants et habitantes un futur digne et désirable.
Nous invitons toutes et toutes les habitants, collectifs, associations du quartier ou de la ville de Lyon à venir nous rencontrer et découvrir les initiatives partant de ce lieu et pourquoi pas y participer. Nous appelons également toutes les personnes qui souhaitent afficher leur soutien à signer la pétition.
Canu, info.
Invisible et disponible, libre et irréductible.
Actu féministe.
Nous sommes fiers et féministes et solidaires et en colère.
Canu info du vendredi.
Mets mon micro, mais tout de suite il arrive. On va commencer cette rubrique féministe par vous lire une version un petit peu raccourcie d'un texte qui a été publié récemment sur rebellion.info et qui s'appelle « Non, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises victimes de féminicide ». Alors voilà, depuis quelques mois, le mouvement Nous Toutes Lyon diffuse sur les réseaux sociaux des portraits de femmes assassinées qui leur associent des qualités flatteuses. Il n'y a pas de bonnes ou il n'y a pas de mauvaises victimes. La violence généralisée, qu'elle soit institutionnelle, économique, policière, médicale, sexuelle, conjugale, s'abat sur toutes et tous et a fortiori sur les personnes fragiles, déjà peu armées pour se défendre. On pense aux migrants et migrantes, aux travailleurs et travailleuses les plus précaires, aux victimes de violences et de scandales médicaux, aux victimes de violences policières. En face d'un pouvoir centralisé et brutal, la défense des cas individuels conduit à faire la lumière sur les cas les plus criants, sur les personnes dont la vie privée et publique ne présente aucune zone d'ombre. Stratégie peu pensée, elle vise à maximiser les chances de faire avancer leur dossier, d'obtenir des papiers, des réparations ou des indemnités, de gagner des procès et de faire valoir une cause. Pour Nous Toutes Lyon et Fanny Vella, l'illustratrice, ce sont des hommages, des commandes familiales. Les portraits diffusés, en bande dessinée naïve, enfantine, sur fond de fleurs et de cerisiers ou de vagues douces, sont empreintes d'une empathique intention de rendre hommage à certaines victimes en images, certaines victimes de féminicide, pour rappeler que derrière les chiffres, il y a des femmes, des filles, des amis. Et puis qu'elle n'avait une vie. Et ça donne, je cite, « Elle aimait les fleurs, elle cultivait son jardin, elle aimait le yoga, ses petits-enfants ou ses neveux. Elle régalait amis et collègues de cuisine fine ou de gâteaux au chocolat. Elle était douce, gentille, coquette, lumineuse, formidable. Elle était une belle personne. » Ces dessins sont publiés avec pour titre « Derrière les chiffres ». En pied de page, sur fond noir, tuée par son conjoint, avec telle arme, à telle date, alors qu'elle avait tel âge. L'effet de contraste est voulu comme saisissant. Cette formidable personne, c'est l'arrêté derrière le chiffre du xème féminicide. Un féminicide, c'est l'horrible crime contre une personne formidable. Le problème, c'est que la conséquence directe est que les moins super n'auront pas d'hommage relayé par nous toutes parce que, bon, bah, elles étaient moins super. En effet, performer post-mortem encore et toujours la perfection lisse des femmes comme il faut et intégrer ce type d'hommage dans une campagne de communication pose problème en termes d'analyse féministe. Plusieurs problèmes. D'abord, ça trimballe un paquet d'injonctions à la féminité qui font la bonne victime, la bonne compagne, la bonne sœur ou la mère idéale. Se souvenir des belles choses, oui, ça a du sens hein, dans le cadre des cérémonies familiales, dans le cadre d'un mouvement féministe ou d'un mouvement politique, c'est plus compliqué. Appuyer une partie de son discours sur quelques-uns des hommages réduit en effet ces belles choses aux attentes sociales que l'on a envers les femmes. Le soin aux autres, la grâce, la coquetterie, le goût des petites choses mignonnes, les loisirs inoffensifs, être une bonne mère, une bonne sœur, une bonne fille, une bonne collègue, jusqu'à la nausée. Deuxièmement, ce sont encore des femmes qui sourient. Une injonction parmi d'autres, mais qui prend une dimension absurde quand on évoque dans un cadre militant une personne qui a subi des violences et en a entraîné la mort. Cela se voit surtout contre l'un des combats des militantes féministes, le droit pour les femmes à ce qu'elles veulent, c'est-à-dire y compris des personnes pas sympas, pas souriantes, pas cool, pas généreuses, pas ce qu'on attend d'elles, pas sages, et à pas se faire tuer par leur conjoint, leur père, leur frère, leur client, ou par des inconnus. Et puis troisièmement, si on ne tue pas sa compagne quand elle est chouette, peut-on taper dessus quand c'est une peau de vache ? La question est monstrueuse et absurde, évidemment, mais c'est pourtant le second versant du phénomène de la bonne victime. Cela met en avant celle qui n'est pas du tout cherchée, celle qui ne l'a pas cherchée, celle qui, à qui on peut lâcher, elle était exemplaire, et puis celle qui l'aurait cherchée en étant chiante, voire même elle-même en étant violente psychologiquement ou physiquement, mérite comme, pourtant, comme tout être humain, d'être laissée en vie, d'être quittée, d'être sanctionnée éventuellement, mais en aucun cas rien ne justifie de la tuer. On ne tue pas tout court. Alors pour toutes ces raisons, si la démarche est compréhensible, elle présente des risques considérables. Surtout se pose la question des finalités politiques et morales de ce combat et des causes profondes que l'on reconnaît les uns, les unes, les autres comme responsables de cet état de fait. Trop de femmes meurent parce qu'elles sont des femmes. La position des femmes dans un monde capitaliste est celle d'agents dont on attend qu'ils remplissent un certain nombre de fonctions, dont l'enfantement, le soin à la famille, la décoration et le travail domestique. Le capitalisme a renforcé l'oppression des femmes en instituant la famille moderne, microcosme enfermé sur lui-même, qu'est la famille nucléaire, lieu idéal de la déchaînement des violences. La dérégulation des services publics, l'obsession de soi, le consumérisme délirant aggravent l'oppression patriarcale et laissent libre cours à la violence de ceux qui considèrent les femmes comme leur bien et ne supportent pas qu'elles s'émancipent, qu'elles existent ailleurs, qu'elles claquent la porte. Alors célébrer la mémoire de femmes qui correspondent parfaitement aux attentes sociales dans le monde patriarcal, capitaliste et libéral, et faire comme si leur meurtre était une absurdité, un accident éradiqué, c'est politiquement superficiel et aberrant. En fait, ça ramène les femmes aux injonctions déjà trop présentes tout au long de leur vie, mais c'est aussi plaqué à la logique de l'institution judiciaire. On sait en effet combien la justice patriarcale et bourgeoise sera plus encline à protéger, indemniser, rendre justice, comme on dit, à une femme qui correspond à l'archétype de la bonne victime. Cela fait partie des raisons qui conduisent à interroger sur ses limites. Le féminisme carcéral n'est pas un horizon. Des flics et des juges qui font leur boulot sans ajouter de la violence et de l'injustice aux violences et aux injustices que vivent les femmes, en fait c'est juste le minimum. Il reste à inventer. Dans les têtes de nombre d'entre nous, un monde vibab, c'est un monde sans prison et sans tribunaux, sans bonnes et sans mauvaises victimes, entre être libre. En creux, le risque c'est que ce genre de campagne aggrave les effets de la pathologisation et de la psychiatrisation des femmes victimes de violences. Subir des violences conjugales et rester avec un conjoint violent, c'est souvent aller mal. Tenter de sauver la face et les apparences, c'est ne pas aller bien du tout. On comprend encore trop peu pourquoi les femmes n'arrivent pas à partir alors que ça fait partie du processus des violences, d'empêcher quelqu'un de partir. On parle trop peu des femmes qui développent des addictions, des femmes qui sont internées en psychiatrie, des femmes qui se suicident à cause de conjoints violents. Avant de partir, et pour celles qui en meurent, avant d'être tuées, ça ne va pas très bien. Ne souligne que les beaux aspects de la personne, que ceux qui sont attendus d'une femme, la joie, la douceur, l'énergie, c'est aussi nier son malaise profond. Les femmes tuées par leurs conjoints souriaient sans doute, étaient sans doute pleines de qualité, mais ça n'allait pas. Pas du tout.
Et toujours dans la rubrique féminisme, le 8 mars, c'est donc la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Alors dimanche, marchons fortes et forts, fiers et en lutte. Le collectif Droits des Femmes 69, ainsi que plein d'autres, appelle à une grande marche. La journée du 8 mars ne se fête pas par un cadeau ou une distribution de fleurs, ce n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Nous appelons à la grève des femmes, comme en Pologne, en Argentine, en Espagne, en Belgique. Montrons que quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête. C'est la grève du travail salarié, mais aussi la grève du travail domestique. Le 8 mars prochain, c'est une journée internationale de lutte. Nous sommes les femmes du monde entier qui se lèvent et se révoltent pour dénoncer la domination et l'exploitation et remettre en cause le patriarcat. Mobilisées en masse depuis des décennies pour exiger une société sans violence sexiste et sexuelle, nous sommes fortes, nous sommes fières. Nous serons les grandes gagnantes et gagnants car nos mobilisations seront victorieuses. Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous sommes celles et ceux qui brisons le silence et qui dénonçons les violences. Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous refusons la dévalorisation du travail des femmes, travail salarié, précaire et travail invisible, domestique, quotidien. Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous refusons toute discrimination liée au genre, assignée ou non à la naissance, à l'origine ou à l'orientation sexuelle. Parce que les femmes partout dans le monde se lèvent et luttent pour leur émancipation. À Lyon, mais aussi ailleurs, le collectif Pride Lesbienne appelle et organise des cortèges lesbiens dans cette manifestation du 8 mars. Voici leur appel. À l'heure où les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes restent normalisées et impunies au point qu'ériger un pédocriminel récidiviste au rang de meilleur réalisateur paraît tout à fait normal aux yeux des hommes, à l'heure où la lesbophobie et la transphobie ne fléchissent pas et que nous subissons encore les harcèlements et agressions quotidiennes malgré les lois en vigueur, à l'heure où nous devons la plupart du temps cacher notre lesbianisme sur notre lieu de travail, d'études, à nos collègues, à nos proches, jusque dans nos familles, sous peine de subir moqueries à répétition, d'être attouchées, violées, précarisées, non seulement en tant que femmes, mais aussi en tant que lesbiennes. À l'heure où, même au sein des communautés LGBTI, nous sommes parfois relégués au rang de méchantes sectaires, et que là où nous cherchons protection, nous retrouvons les mêmes violences que partout ailleurs. Nous revendiquons la PMA gratuite et accessible à toutes et tous, la formation du corps médical aux questions de santé sexuelle des lesbiennes, des personnes trans et intersexes, une véritable prise en charge des violences sexistes et sexuelles dans les commissariats, les hôpitaux, les tribunaux, en prenant en compte systématiquement le caractère lesbophobe ou transphobe des violences quand il y a lieu, l'accès libre, gratuit, généralisé à tous les moyens de contraception et de protection, le changement de prénom et d'état civil libre et gratuit sur simple demande dans les mairies. Alors rendez-vous dimanche 8 mars à 15h, place Bellecour. Et l'ensemble des prises de parole seront signées par des interprètes en langue des signes française.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
On va vous parler maintenant de Technopolis. Technopolis, c'est un site qui nous parle de Thales, qui nous parle d'Engie quand ça se passe à Marseille, qui nous passe de Huawei, qui nous parle de Huawei à Valenciennes, qui nous parle d'IBM à Toulouse. Pourquoi ? Pour bien sûr la vidéosurveillance intelligente qui vise à détecter des situations inhabituelles, des mouvements de foule, des personnes qui se mettent à courir. C'est un site qui nous parle de la reconnaissance faciale qui a déjà été expérimentée à Nice pendant le carnaval en 2018 ou était en projet dans des lycées du Sud. C'est un site qui nous parle de l'arrivée des caméras piétons installées sur les policiers, qui nous parle aussi de l'arrivée des drones pour la surveillance. C'est un site qui nous parle des dispositifs de micro qui ont été en projet dans les rues de Saint-Étienne et qui visaient à détecter les cris et les bris de vitres. C'est un site qui nous parle des applications citoyennes pour la délation vidéo, comme avec le projet Reportail à Nice, qui a été bloqué par la CNIL. C'est un site qui nous parle de toutes ces joyeuses technologies qui sont boostées par des systèmes de big data afin d'anticiper les incivilités et de créer la sécurité de demain. Parce que demain sera totalitaire. Demain sera, si on reprend les mots de ce site, une surveillance totale de l'espace public au travers des technologies de contrôle social développées par des entreprises privées et avec la complaisance des élus locaux. Ainsi, Technopolis nous rappelle que la Smart City fait ainsi la technopolis de notre futur. Sous couvert d'optimisation et d'aide à la décision, elle transforme l'urbanité tout entière pour en faire une vaste entreprise de surveillance. Une surveillance macroscopique d'abord, dédiée à un pilotage serré et en temps réel des flux de population et de marchandises, à une gestion centralisée depuis un centre de commandement hyper connecté. Puis une surveillance rapprochée des individus et des groupes. Dès que des comportements suspects sont détectés, les appareils répressifs pourront fondre sur eux, préempter la menace et réprimer la moindre petite infraction à l'ordre public. Ou à l'inverse, récompenser les citoyens jugés vertueux. Sauf qu'il suffit de regarder dans le miroir que nous tendent l'histoire et d'autres régions du monde pour savoir à quoi la technopolis nous conduit. Renforcement des formes de discrimination et de ségrégation, musellement des mouvements sociaux et dépolitisation de l'espace public, automatisation de la police et du déni de justice, déshumanisation toujours plus poussée des rapports sociaux. Tout cela, et plus encore, au prix d'un gigantesque gâchis financier et écologique qui ne servira qu'à conforter le pouvoir des marchands de peur et à maquiller le plus longtemps possible l'ineptie de leur politique. Les technocrates misent donc sur le plan et la machine pour réguler nos villes et nos vies, en lieu et place de la police, entendue comme cité démocratique, comme espace pluraliste, lieu de déambulation, de rencontres impromptues et de confrontation à l'altérité. Ils mettent la ville sous coupe réglée. La technopolis ressemble à un gigantesque tube à essai dans lequel les formes les plus avancées du contrôle social pourront être mises au point. Contre cette dystopie que préparent ceux qui prétendent nous gouverner, nous appelons à une résistance systématique. Donc ça, c'était des propos qu'on trouve sur le site Technopolis. Et si on vous les relaye, c'est aussi surtout parce qu'ils ont fait un appel à la délation. À la délation de quoi ? À la délation de vos patrons. puisqu'ils font un appel à fuite, un appel à leaks pour toutes les personnes qui travailleraient ou auraient des infos sur les entreprises ou collectivités qui mettent en œuvre des projets technopoliciers, reconnaissance faciale, vidéosurveillance automatisée, intelligence artificielle, aide à la décision sécuritaire, détection des comportements suspects ou les gens qui sont en lien avec des collectivités qui s'occupent de ça. Vous pouvez vous rendre du coup sur le site de Technopolis pour faire passer des documents. Ces documents qui servent à pouvoir s'informer et faire circuler les infos et surtout empêcher que ce genre de projet advienne dans nos futurs proches.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et oui, nucléaire, et comme d'hab, on va vous parler un petit coup de la centrale du Bugey qui a été très récemment au bord de l'accident. Alors effectivement là, quand on le dit comme ça, au bord, en fait, moi quand c'est écrit sur ma feuille, par exemple, au bord, il y a un jeu de mots. Mais ça, vous l'entendez
c'est
pas.
C'est écrit B-O-R-E.
Voilà, c'est un jeu de mots. Bon bref, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc c'est arrivé le 24 février, et qu'est-ce que EDF s'est aperçu le 24 février ? Ben, ils se sont aperçus qu'une vanne qui contrôle l'injection de bore dans le circuit primaire était fermée depuis une durée. Eh ben on ne sait pas, et EDF ne sait pas non plus d'ailleurs a priori. Donc ça c'est plutôt inquiétant. Alors nous, la centrale du Bugey, on est un peu habitué en fait, hein, voilà, erreur de config, mauvaise surveillance, fonctionnement et installation, violation des règles d'exploitation, détection tardive d'événements, enfin voilà, bref, nous on est un peu habitué. Mais là quand même, souvenez-vous, alors il y a un petit moment quand même, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais quand on parle de circuit primaire, et eh ben on se dit, ouf, ça touche un truc grave, parce que c'est quand même là où il y a le cœur du réacteur. Mais quand vous avez circuit primaire et injection de bore qui sont dans la même phrase, là c'est encore pire. Là on est dans ce cas-là. C'est-à-dire que pour expliquer un peu, le bore c'est un élément qui permet de neutraliser la réaction nucléaire. Donc, je pense que peut-être de plus en plus de monde ont un peu cette image des barres de contrôle qu'on insère dans le réacteur, donc qui contiennent du bore et qui viennent se coller au crayon de combustible. Mais il faut savoir que le bore n'est pas utilisé uniquement de cette manière-là. Il est aussi injecté dans l'eau qui circule entre les crayons d'uranium. Et ça permet à l'eau en fait d'absorber plus ou moins les neutrons. Donc c'est une méthode de régulation de la réaction nucléaire. Et donc on en injecte de plus en plus au fur et à mesure du cycle de vie du réacteur, pour ensuite à la fin qu'il s'arrête. Quoi. Donc ça c'est un truc qui se cumule avec les barres de contrôle. Sauf que là, là-dessus. On apprend que la vanne fonctionnait pas, ou enfin en tout cas était fermée, donc ça veut dire qu'on pouvait pas réguler. Et donc là c'est un truc quand même plutôt très grave où en fait faut savoir que si jamais on n'arrive pas à contrôler cette réaction, les conséquences peuvent être assez dramatiques pour notamment toutes les personnes qui travaillent sur place, mais aussi pour les habitants proches ou même plus lointains, ou l'environnement, etc. Donc ça paraît anodin en fait, et justement c'est aussi ce que je voulais dire, c'est que ça c'est le type d'incidents qui sont déclarés de manière assez anodine par EDF et par l'ASN, puisque il faut savoir que cet incident a été classé niveau 1 sur une échelle qui s'appelle l'échelle de l'INES, qui est censé juger de la gravité des conséquences. Et donc, évidemment, c'est la gravité des conséquences. Et là, comme il n'y a pas eu de conséquences, parce qu'il n'y a pas eu d'accident nucléaire, fort heureusement, ce truc qui est quand même
hyper, hyper grave a été classé que niveau 1. Donc il y a 7 niveaux. Donc voilà, donc cette nouvelle déclaration d'événement significatif qui est très 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 inquiétante s'accumule, comme je disais au tout début, hein, tout à une suite de longues et très régulières séries d'incidents. On peut en dénombrer 9 en à peine 5 mois sur le site du budget. Donc c'est plutôt inquiétant. Alors à savoir aussi que les départements de l'Ain, hein, je vais plutôt parler différemment, le département de l'Ain a souligné son appui pour qu'il y ait des réacteurs EPR, figurez-vous, dans le budget. Donc voilà.
Marche bien les EPR.
Si c'est eux qui les gèrent, ça promet. Donc voilà. Donc c'est pour vous signaler ce petit incident, hein, puisqu'il est juste classé niveau 1. À savoir que toutes ces. Alors si vous voulez retrouver, suivre un peu le flux d'actualité des incidents de la centrale du budget, mais aussi d'autres centrales, ça c'est des infos que vous pouvez retrouver dans une super rubrique qui s'appelle la rubrique des accidents nucléaires, donc sur un site sur le site de Sortir du Nucléaire, de l'association Sortir du Nucléaire. Donc voilà, donc c'est un chouette travail qui est fait là-dessus. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai le temps? J'ai le temps de vous dire une petite bafouille sur une autre chose aussi qui est arrivée récemment. C'est que, figurez-vous, on a retrouvé ce qu'on appelle une fontaine d'uranium. Alors, c'est pas une fontaine d'uranium, c'est une fontaine d'eau à uranium. On a retrouvé ça dans le Lot, sur le bord d'une route. Ça gisait nonchalamment comme ça. Alors, c'est quoi ce truc? C'est un objet en fait d'un passé où la radioactivité était perçue comme une source d'énergie pour le corps. Et donc voilà. Et donc rien que tel de donc à l'époque de faire des petites fontaines d'eau dopées au radium pour se requinquer. Donc telle une fontaine de jouvence. Alors pourquoi le radium? En fait, à l'époque, le radium tout le monde voit. Je sais pas si tout le monde voit, mais en tout cas c'est quand même assez célèbre. C'est un élément qui a été découvert par Marie Curie. Donc tout le monde en a déjà plus ou moins entendu parler.
Ça l'a pas tué.
Alors je sais pas si il y a peut-être plein d'autres trucs qui l'ont tué, mais c'est vrai que ça a tué beaucoup de monde et je pense que effectivement ça a contribué à accélérer un peu plus sa fin de vie. En tout cas, c'est un élément qui a alimenté pas mal de fantasmes industriels au début du siècle dernier. Parce que le radium, c'est non seulement un élément qui vous, donc, comme je disais au début, apporte énergie et jeunesse, mais il est aussi luminescent. Et alors fait surkiffer tout le monde. Il émet une petite lumière bleutée. D'ailleurs, c'est dans tous les fantasmes de la radioactivité actuelle, c'est-à-dire que il y a tout un imaginaire, la radioactivité émet de la lumière, tout un truc un peu comme ça. Donc un élément radioactif doit briller et tout. Ce qui n'est pas du tout le cas en vrai, hein, mais voilà. Donc c'est à l'origine un peu de tout ça. Et dans tout le début du XXe siècle, il a été adapté un peu à toutes les sauces, le radium, et donc dans les fameuses fontaines, mais aussi dans les célèbres montres brillantes.
Ah ouais, c'est vrai.
Des montres radioluminescentes, comme on dit, qui ont eu des conséquences désastreuses pour les ouvrières qui étaient en charge d'appliquer ce poison radioactif donc sur les petites aiguilles et sur l'ensemble du cadran. Donc c'est ces nanas qu'on appelait les Radium Girls, donc qui ont été sacrifiées contre une poignée de dollars par US Uranium, c'est le nom de la boîte qui fournissait ces rayonnantes montres à l'armée américaine, entre autres. Et le radium, ça rigole pas, parce que c'est 1 gramme de radium, c'est une radioactivité de 37 gigabécquerels, donc c'est énormissime, et c'est d'ailleurs une unité de référence dans la mesure de la radioactivité. Donc juste pour vous dire, pour vous ramener, parce que giga, peut-être ça parle pas aux gens, 1 microgramme de radium, donc 1 microgramme, c'est vraiment que dalle, ça représente 37 000 becquerels, voilà. Puis ça dure longtemps, parce que c'est 1700 ans, la demi-vie. Donc voilà, alors en fait, aussi autre petit truc qui va intéresser nos très chers, alors surtout Villeurbanne a priori, mais un peu Lyon, c'est que en fait, c'est la fontaine d'uranium qui a été découverte dans le Lot, il faut savoir que on peut en retrouver des fois comme ça qui ressurgissent d'un passé lointain. Et pour l'année, en 2012, il y en a eu une qui a été photographiée à Villeurbanne sur un marché, si je ne m'abuse. Et
qui a fait l'objet d'un avis de recherche, très sérieusement, pour dire bah, attention, en fait, il faut qui a mis en vente ce fontaine d'uranium, il faut absolument il faut absolument la récupérer et puis la confiner, etc. Alors concernant celle qui a été découverte dans le Lot, la source de radium qui est contenue dans la fontaine était pas éméchée et tout, donc ça veut dire que le radium est resté confiné. Donc il n'y a pas eu de dispersion dans l'environnement. Par contre, l'objet reste extrêmement dangereux et très radioactif. Donc voilà, c'était pour faire une petite brève. Et là, je crois que je suis presque à la bourre parce que voilà, ouais. Je vois Laurent qui fait des gros yeux derrière.
Bon, mais en tout cas, c'est un super cadeau à offrir à la prochaine personne qui sera élue à la mairie. Une petite fontaine de radium.
Et voilà, pour qu'il y ait une longue vie au prochain maire, comme on
peut aussi envoyer en Irak, on nous suggère. Et nous, en tout cas, on n'a pas le temps de faire l'agenda, bien sûr. Et on a quand même le temps de vous dire que sur le site L'Âge de Fer, ils ont fait un recensement de toute la presse alternative. Du coup, c'est assez cool quand vous serez tous en quarantaine à cause du Covid 49.3 ou je sais pas quoi, là. Bah, vous aurez des trucs à lire sur le web. Et puis, on va quand même se demander, est-ce qu'on se demande ce que ça veut dire à CAB ?
Radio.
Radio Canu, Canu Info du vendredi.
Eh bien, bonsoir Mathieu, merci pour cette question très nouvelle. Eh bien, ce soir, ACAB, ça veut notamment dire alerte coronavirus, abandonner le boulot.
Eh ben, merci professeur pour cette explication. On vous laisse pour tous les fans de rock'n'roll
avec qui ont virus, avec l'émission la plus irradiée de Radio Canu.